Ok les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 64 du podcast Limitless. Je suis toujours Louis Doucet, comme la semaine dernière. Et aujourd'hui, on va parler de pas mal de sujets. Je vais vous faire un topo rapide. Alors bon, évidemment, on va faire l'actualité, etc. Mais dans l'idée, on va parler aujourd'hui d'OBO. L'OBO, c'est Owner Buyout. D'accord? C'est un processus qui nous permet de faire du rachat à soi-même d'actifs. D'accord? Nous, on va faire un focus sur l'IMO. Mais vous allez en apprendre pas mal aujourd'hui. C'est gratuit, ça me fait plaisir. J'en profite pour vous dire, avant de commencer cet épisode, on n'oublie pas de mettre une note 5 étoiles et j'ai eu un de nos auditeurs au téléphone cette semaine qui a fait le choix de rejoindre notre formation. Et il m'expliquait qu'il a essayé de nombreuses fois de mettre une note 5 étoiles et malheureusement, Spotify ne lui laissait pas la possibilité. Donc faites-moi remonter l'info si c'est votre cas aussi. Sinon, aucune excuse les amis, mettez une note 5 étoiles, ça nous aide, c'est important. On est en train de pulvériser tous les records, tous les scores. En termes de croissance d'audience. Donc ça, c'est magnifique. C'est grâce à vous et à moi. Et oui, en partie, il faut le dire malheureusement. Et sans plus attendre, les amis, on va commencer sur l'actualité et ensuite on passe au sujet du jour. Mais qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Bon, côté AD Gestion, on a rentré des nouveaux mandats en gestion, ça fait kiffer. Chaque semaine, on essaye d'empiler des nouveaux clients et des nouveaux partenaires. J'en profite pour vous dire que on recherche toujours des nouveaux partenaires. Donc, si vous voulez avoir des apports d'affaires, signer notre contrat de partenaire, travailler avec nous, nous apporter des deals, etc., bah écoutez, on travaille en bonne intelligence. Pour travailler avec nous, il faut juste passer nous voir, discuter avec nous, on se rencontre, on vous fait signer notre contrat de partenaire qui vous assure de toucher vos honoraires en cas d'apport d'affaires. Et c'est aussi simple que ça, les amis. C'est gagnant-gagnant. Il y a des élèves de mon école qui, typiquement, arrondissent leur fin de mois grâce à ça, parce qu'ils développent un business en apportant des deals, puisque eux-mêmes sont dans l'immobilier, etc. Donc ça, c'est top. Évidemment. Évidemment que c'est sur facture, je vous le dis tout de suite. Pas besoin de me dire c'est possible. Non, non, c'est pas possible justement. Mais ne perdez pas de temps à essayer de douiller le système. Payez des impôts normalement et juste faites du volume et vous gagnerez très très bien votre vie. Ok? Fin de la parenthèse. Parenthèse sur le podcast, juste plus 231% au niveau de l'audience depuis le fin janvier. Donc voilà, c'est pas mal. On a plus que multiplié par deux l'audience. Donc ça fait kiffer. Ça, encore une fois, merci à tous. C'est hyper important que ça continue comme ça. Et je vais tout donner de mon côté pour fournir le plus de contenu possible, le plus de contenu qualitatif possible. Là, cette semaine, on a sorti du coup le podcast avec Cédric Frioure et Vincent Marty. Donc c'était bien réceptionné, bien reçu de votre part, et ça m'a fait plaisir. N'hésitez pas à aller voir la version vidéo sur ma chaîne YouTube, Louis Doucet, vous allez kiffer. Et n'oubliez pas, petit commentaire, petit truc, on partage, etc. etc. Enfin, le sujet du jour, les amis. OBO, qu'est-ce que c'est? Alors, en gros, un OBO, donc c'est ce que je vous disais en intro, c'est Owner Buyout. Ce qui en gros veut dire que vous achetez à vous-même un bien ou un actif. Okay? On va faire un focus sur l'immobilier et je vais vous prendre un exemple que j'ai tiré d'une expérience avec un client, mais je ne pourrais pas en dire beaucoup plus. Okay? Mais dans l'idée, je vous ai pris des chiffres et on fait nos petits calculs pour vous montrer à quel point, en fait, cette simple notion qu'on va aborder aujourd'hui dans un podcast qui est, je le rappelle, 100% gratuit, les amis. Et oui, vous écoutez ce podcast 100% gratuitement. Donc imaginez, quand je vous vends du contenu, croyez-moi, je ne vous prends pas pour des cons. OK? Donc dans l'idée, à quoi ça sert? En fait, si vous avez, par exemple, déjà acheté plusieurs biens immo parce que vous me suivez depuis des années, etc., notamment comme Kevin, que vous commencez à avoir du patrimoine qui se rembourse gentiment, voire qui est déjà remboursé. Vous avez à la fois envie de conserver ce patrimoine, conserver les biens, etc., parce que les actifs sont bien placés, qu'ils font sens sur la durée avec un potentiel de plus-value sur les prochaines années, etc. Eh bien, il peut y avoir une problématique. C'est que parfois, certains ont besoin de récupérer des liquidités pour les réallouer dans d'autres projets, que ce soit d'autres projets immobiliers ou d'autres projets tout court. Ça peut être un projet perso, ça peut être un autre projet d'investissement, mais dans un autre type de business. Et en fait, il y a un système qui vous permet de conserver votre patrimoine, mais de relever de la dette sur du patrimoine qui est déjà payé. Et ça, justement, ça s'appelle un OBO. OK? Et l'OBO, l'avantage, c'est que par exemple, vous avez un bien immobilier à 1 million d'euros, OK? Ou plusieurs biens immobiliers qui représentent 1 million d'euros. Et de toute façon, je vous donne un exemple avec des chiffres juste après. Mais admettons, ce bien génère, on va prendre des chiffres basiques, 1 million d'euros, 1,8%, génère 80 000 euros de loyer par an. OK? Les 80 000 euros de loyer par an, ils sont amenés à croître parce que la zone est top, etc. Blablabla. Vous pouvez très bien créer une structure, une société, d'accord? Donc avec une personne morale. Ça va vous permettre de lever de la dette au niveau de cette société. Donc, cette société va souscrire un emprunt immobilier, okay, auprès d'une banque. C'est ce qui va permettre à cette société de vous acheter vos parts à vous. Okay. Donc, vous allez récupérer le fruit de la vente, vous allez récupérer du cash. En même temps, vous êtes propriétaire de la société qui vient vous racheter votre patrimoine. Donc, en soi, vous êtes toujours propriétaire du patrimoine. Mais du coup, vous avez une énorme enveloppe de cash sous la main qui va vous permettre de faire d'autres investissements. Parce que, on va rentrer dans le détail après, mais il faut savoir quand même que les banques font évidemment attention à ce que vous faites de l'argent que vous allez récupérer. Si c'est faire un OBO pour acheter une Ferrari derrière, ça n'a pas d'intérêt. OK? Si c'est faire un OBO pour réinjecter des fonds dans une nouvelle opération, et relever de la dette et démultiplier vos actifs, là pour le coup, une banque va vous suivre. OK? Donc, qu'est-ce que je m'étais noté à ce sujet? Donc, tac, tac, tac. Donc, c'est un très bon outil qui va vous permettre de réorganiser éventuellement votre patrimoine. Alors, je sais, certains n'ont pas encore de patrimoine immo. OK? Donc là, dans cet épisode, exceptionnellement, je vous projette dans l'étape où vous en aurez déjà. Mais je suis obligé de m'adresser quand même au reste de l'audience qui sont déjà des investisseurs, qui ont déjà du patrimoine. Il y en a beaucoup qui sont issus de ma première formation Investir dans l'immobilier de A à Z. Et vous me suivez encore depuis 2019. Et parenthèse, c'est incroyable le nombre d'anciens membres qui deviennent membres de la nouvelle formation. Donc ça me fait plaisir, parce que ça prouve que le travail bien fait permet de conserver des clients sur la durée, des clients qui ont développé une confiance. Et ça, c'est hyper important. Et croyez-moi que je travaille d'arrache-pied pour que toutes mes équipes aient une exécution parfaite sur tous les contenus qu'on vous délivre. Mais vraiment, je vous le dis sincèrement. Donc ça, c'est cool. Merci à vous. Mais tout ça pour vous dire que si vous avez déjà acheté plusieurs biens immo depuis, par exemple, 2019, 2020, en fonction des achats que vous aurez réalisés, si vous avez fait des grosses plus-values latentes, etc., il peut parfois être intéressant de commencer à se pencher sur ce cas. Maintenant, il faut être transparent sur le sujet. À moins d'avoir réalisé des grosses plus-values ou remboursé quand même beaucoup de capitaux, le truc, c'est que, enfin, beaucoup de capitaux ou beaucoup de capital, vous avez compris. Mais il faut avouer une chose, c'est que généralement, on fait ça quand on commence à avoir pas mal de patrimoine. Enfin, je dirais qu'à partir d'un million d'euros, ça peut commencer à être pertinent. Et je vais vous donner l'exemple d'un de mes clients que j'ai renommé, ok? Il s'appelle Tom, ok? Il est chef d'entreprise. Tom a 20 biens immobiliers en Île-de-France, d'accord? C'est principalement des petits appartements, d'accord? Qu'il a achetés à l'époque à des prix plutôt corrects, avec des prix entre 60 et 80 000 euros par unité, ok? On évalue au total le coût d'acquisition à l'époque. Ah, il va falloir peut-être prendre des notes sur ce podcast si vous voulez apprendre des trucs, mais en gros, enfin, vous pouvez l'écouter, mais essayez de retenir un peu les chiffres. Je vais essayer de ne pas vous perdre dans tous les chiffres. Mais en gros, il a investi au total 1,3 million avec quasi 90% de dettes, ok? Sur une vingtaine de biens. Alors, Tom, je vous rassure, il n'a pas 15 ans. Hein. Tom est entre deux âges. On va dire ça poliment. Non, en gros, il a aux alentours de la quarantaine. OK? Mais Tom, c'est pas branlé quand il était jeune. Il a investi et du coup, bah, mine de rien, il commence à être assis sur un beau petit patrimoine. Parce qu'en fait, les 1,3 million, c'est ce qui a été dépensé à l'époque. Sauf qu'aujourd'hui, avec les revalorisations, etc., les plus-values réalisées, enfin, en tout cas, les plus-values latentes sur les actifs, plus le remboursement de la dette, etc. Bref, le patrimoine de Tom a été évalué 18 ans plus tard à 2 millions d'euros, sachant que c'est une fourchette qui est ni basse ni élevée, c'est cohérent. C'est cohérent. Je pense que ça pourrait être évalué un tout petit peu plus cher, parce qu'en 18 ans, ça me semble faible comme plus-value. Mais après, c'est des actifs avec du rendement, c'est pas non plus à Paris, etc. Donc bref. Pour vous résumer, 18 ans plus tard, donc aujourd'hui, Tom a 2 millions d'euros de patrimoine, d'accord? 2 millions d'euros, donc ça fait en gros 100 000 euros par appartement. Ils sont valorisés gentiment. Et ces appartements produisent 160 000 euros par an de loyer. OK? Donc ça fait 8%. 8% brut, pour ceux qui vont poser la question. 8% brut, ça fait 160 000 euros de loyer par an. Tom a un projet en parallèle de ses actifs et il a une énorme opération IMO, d'accord? Sur le rachat de murs d'hôtel. Et oui. Et Tom a besoin de pouvoir investir à minima 1 million, 1 million 100, 1 million 200 000. Il a besoin d'investir ça. Mais Tom est pourtant très content du parc IMO qu'il a déjà, puisque tout est payé, il est en loyer plein, donc il encaisse des gros loyers tous les mois. Et ben, il n'y a pas de risque, c'est-à-dire que Tom est entre guillemets rentier, d'accord? Même si Tom a toujours une activité en parallèle. Mais Tom, sur le papier, pourrait s'arrêter de travailler à 40 ans, d'accord? Pour autant, comme il a compris comment l'argent fonctionne, ben, en fait, il va surtout pas s'arrêter. Et on va faire tous les calculs et je vais vous donner l'avant après, vous allez comprendre pourquoi ça vaut peut-être le coup d'apprendre 2-3 trucs sur l'investissement IMO, ok? Donc Tom, en gros, décide de créer une nouvelle société pour racheter les 20 biens immobiliers qu'il a, enfin qu'il détient actuellement. Ok? Donc il crée cette société, il les rachète. Il va du coup emprunter, enfin il va du coup se racheter à lui-même 2 millions d'euros l'intégralité du patrimoine. Pourquoi? Parce que il n'a pas le droit de sous-évaluer les parts, ça c'est un coût à se faire redresser par l'administration fiscale et croyez-moi, vous avez la flemme de vous faire redresser, de rentrer dans des process de contrôle, etc. Donc autant faire les choses carrées dès le début. Donc il rachète correctement au prix du marché à 2 millions d'euros, c'est bien, ok? Donc comprenez bien comment ça fonctionne. Ayez en tête qu'il y a un petit personnage, vous pouvez faire un petit bonhomme sur un papier. Ce petit bonhomme détenait une maison, hein, on va simplifier les choses. Maintenant, ce petit bonhomme détient une société qui détient une maison, OK? Dans l'idée, c'est ça à plus grosse échelle. Et par conséquent, pour obtenir un financement qui va quand même permettre l'autofinancement du patrimoine, je répète si jamais ce n'est pas clair. Pour obtenir un nouveau financement qui va permettre de maintenir un autofinancement de l'ancien patrimoine, je m'explique. Pour acheter toutes les maisons, enfin tous les apparts, pour acheter tous les appartements, il faut que le projet s'autofinance sur la durée, puisque du coup, il y a un nouvel emprunt. Donc, nouvel emprunt dit à nouveau 240 mensualités. 240 mensualités, ça fait 20 ans. 20 ans, il ne faut pas être en cash flow négatif. Sinon, on se tirait une balle dans le pied, sachant qu'on était en cash flow plus que positif. Donc, ça n'a aucun intérêt. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Tom, quand il revend, il paye 250 000 euros de plus-value à l'État. Donc, sur 2 millions d'euros, il récupère 1 750 000. OK? Sur 2 millions d'euros, du coup, il lui reste 1 750 000 pour racheter à lui-même donc son patrimoine. Il va tout simplement remettre 750 000 euros d'apport dans l'opération et lever 1 250 000 euros de nouvelles dettes. D'accord? Donc, je vous explique. Avec les 2 millions qu'il a récupérés bruts, il en récupère en réalité 1 700 000, 1 750 000. Sur les 1 750 000, il garde 1 million pour lui et il réinjecte dans les actifs IMO qu'il s'est racheté 750 000 euros d'apport pour avoir de la dette qui est supérieure à l'apport. Donc, on est à plus de 50% de dette sur l'opération. Donc, ça reste une très belle opération. C'est-à-dire qu'il va multiplier minimum par deux son capital en 20 ans, minimum hors plus-value. Et du coup, il fait un nouveau financement. Le nouveau financement, on est à 86 900 euros d'annuité, d'accord? Et pour rappel, on avait 160 000 euros de loyer encaissé. Donc, autofinancement parfait, enfin sans problème. Chaque année, Tom, sur ce financement, va amortir, donc va capitaliser 43 000 euros, d'accord? Chaque année, il aura remboursé sur ce prêt 43 000 euros, donc c'est-à-dire que au bout de 2 ans, bah, ça fait 86, etc., etc. Au bout de 10 ans, ça fait 430, etc., etc. Vous avez compris le principe. Sachant que c'est en réalité plus que ça, parce que plus le temps passe, plus on amortit de capital, moins on paye d'intérêt. Mais on ne va pas rentrer là-dedans. Comment il réorganise le reste de son patrimoine? Donc, pour rappel, je suis désolé, il y a beaucoup de chiffres aujourd'hui, peut-être que c'est moins rigolo que d'habitude, mais encore une fois, si vous n'êtes pas capable de vous concentrer, c'est votre problème. Les amis, c'est hyper important de comprendre ce que je suis en train de vous dire. D'accord? C'est pour ça que j'essaie de clarifier le plus possible, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Dans l'idée, il a du coup toujours 2 millions d'euros de patrimoine via une société. Il a récupéré 1 million en plus, en parallèle, de cash. D'accord? C'est des liquidités, pour le coup. Donc, il a un virement d'un million d'euros sur son compte. Ce million d'euros, qu'est-ce qu'il va en faire? Il va créer ce dont je vous ai parlé la dernière fois, une SCP. C'est une société civile de portefeuille, d'accord? C'est pas pareil que les SCI. Enfin, en fait, si, c'est le même principe que les SCI, mais c'est pour détenir des actifs, d'accord? Qui peuvent être financiers. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, par exemple, je peux vous donner plus de détails, mais dans l'idée, il va obtenir à peu près 13% de rendement sur ce capital en l'investissant gentiment sur des positions comme le S&P 500 et autres, d'accord? Et comme il sait intelligemment placer son argent, il sait obtenir des rendements aux alentours des 10-13% chaque année, ok? On va juste se faire un petit point au bout de 6 ans, mais j'ai oublié juste un truc, mais on va se faire un point au bout de 6 ans, combien il aura gagné, d'accord? En faisant cette opération par rapport à l'argent de départ, ok? Donc juste pour rappel, il avait 2 millions d'euros de patrimoine au départ, ce qui paraît énorme pour ceux qui démutent, mais franchement, je vous jure que c'est pas grand-chose, bah, c'est une vingtaine d'appartements à 100 000 euros hein, qui s'autofinancent, donc c'est largement faisable. Encore une fois, il n'a pas 20 ans, mais sur le principe, c'est pas sorcier. Et même si c'est déjà très bien, c'est pas non plus extraordinaire. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens qui ont fait 10 fois, 100 fois plus gros. OK? Attention, hein, C'est très bien. Je ne suis pas du tout en train de dire que ce n'est pas bien. C'est très bien. Mais voilà, faut avoir toujours en tête que les échelles de valeur, généralement, on se les fixe par rapport à son entourage. OK? Si demain, tu gagnes 15 000 euros par mois et que tu traînes que avec des personnes qui sont au SMIC, tu vas avoir l'impression d'être un taulier. D'accord? Si demain, tu gagnes 15 000 euros par mois, mais que tous tes potes, ils gagnent 150 000 euros par mois, tu vas avoir l'impression d'être un clochard. OK? C'est aussi bête que ça. Et en fait, c'est pour ça que je vous dis, ne vous croyez jamais arrivé parce que vous n'êtes jamais arrivé. D'accord? C'est aussi bête que ça. Mais bref, pour revenir au sujet, la réorganisation de son patrimoine, on fait un petit récap. Donc, il a créé Société Invest 1. Société Invest 1 a racheté du coup son ancien patrimoine IMO. Donc, Société Invest, il y a 2 millions d'euros de patrimoine. Il a créé SCP1. SCP1, c'est la société civile de portefeuille avec laquelle il va détenir à peu près 600 000 euros d'ETF. D'accord? Orienté SP500, ETF Monde, etc. Mais bref, beaucoup SP500. Et je rappelle que ce n'est pas du conseil en investissement. N'achetez pas ou achetez, mais démerdez-vous, c'est votre décision. D'accord? Dans l'idée. Du coup, si on fait le calcul, 1 million moins 600, eh ben, il reste quand même 400 000. 400 000 de cash, trésorerie. D'accord? Cette trésorerie, qu'est-ce qu'il va en faire? Eh ben, en fait, il va mettre 35% d'apport dans le projet initial pour lequel il a vendu, les amis. Eh oui, 35% d'apport. Il met donc 400 000 euros d'apport dans un nouveau projet à 1 140 000 euros. OK? Et ce nouveau projet, du coup, bah, il va lever à nouveau 750 000 euros de crédit. Et les 750 000 euros de crédit représentent chaque année, sur les premières années en tout cas, à minima 26 000 euros de capital amorti. Je vous rassure, c'est la fin des chiffres. C'est la fin des chiffres. Il fallait tenir jusqu'ici pour comprendre un petit peu. Et maintenant, on va faire un résumé global. Je vais vous expliquer au bout de 6 ans combien d'argent il a gagné après cette opération. Donc, la société Invest 1, celle qui a acheté le patrimoine de départ, elle a acheté ce patrimoine à 2 millions d'euros. OK? 6 ans après, le patrimoine a pris 5% de valeur. D'accord? 5% en 6 ans, c'est-à-dire moins de 1% par an. Sur la durée, bref, c'est pas des estimations qui partent en vrille, ok, loin de là. Donc c'est-à-dire que on est passé à une valorisation à 2 millions 100, ok, et la dette est du coup de 1 million d'euros, puisque je rappelle, on a emprunté pour la SCI, enfin pour la société Invest 1, on a emprunté donc 1 250 000 et on amortit 43 000 euros par an. 43 000 euros par an pendant 6 ans, c'est-à-dire que déjà au bout de 6 ans, on a déjà remboursé 250 000 euros. Okay? Et en plus de ça, on a une petite plus-value latente qui est en train de se développer gentiment. Et pour rappel, on n'a pris que 1% de valorisation annuelle, hein, ce qui est peanuts. Peanuts. Okay? Donc ça, c'est pour la société Invest 1. Ensuite, on a la SCP. La SCP, pour rappel, elle a des ETF. Les ETF, bah, génèrent en moyenne 13% de rendement par an. Donc, les 600 000 de départ, au bout de 6 ans, se sont transformés en 1 249 000. Ouais, Louis, c'est impossible. Ok, d'accord. Regarde les historiques de rendement des ETF et ferme bien ta... Voilà. Ok? Ensuite, donc ça, c'était la société Invest 1, la SCP, et pour rappel, il a créé une troisième société avec laquelle il a réemprunté en mettant les 400 000 euros d'apport. Et du coup, cette société vaut 1 300 000 brut. Il y a une dette dessus de 744 000 euros, d'accord? Pareil, qui se rembourse gentiment. Pour rappel, on avait emprunté, tac, tac, tac. On avait emprunté 750 000. Ah, je vous ai dit une connerie alors. En fait, c'est encore mieux que ça. C'est encore mieux que ça. Attendez, je refais mon calcul. Ça fait 26 x 6. 26 x 6, 150 moins 750. C'est encore mieux, putain. Déjà que vous alliez serrer, mais là, ça va être encore mieux. Ça me fait chier parce que du coup, on va encore me dire que J'essaye de vous faire rêver. Alors que pas du tout. Mais voilà. Donc, du coup, SCI Invest 2, la dette restante est de 594 000 euros. OK? Donc, récap global là, cette fois. Le patrimoine brut, initialement, il était à 2 millions d'euros, d'accord? Donc, avant l'opération de Dobéo. 6 ans plus tard, 6 ans plus tard, avec la répartition et la nouvelle réallocation d'actifs, etc. 6 ans plus tard, on est en patrimoine brut à 4 649 000 euros. 4 649 000 euros. En, du coup, 6 ans, on a plus que doublé le patrimoine brut. Donc, en 6 ans, pour rappel, si on fait 2 millions 649 sur les 2 millions de départ, on a fait du coup 132%, 132,45% en 6 ans. Donc, si on fait ça, voilà. En gros, on a réussi à faire croître notre patrimoine de 22% en moyenne par an. OK? 22%. Et ce n'est pas du Bitcoin, ce n'est pas des. Voilà. OK? C'est juste de l'ingénierie financière. Juste de l'ingénierie financière. OK? Attention, je vous ai dit patrimoine brut. OK? Calmez-vous. Ne tombez pas dessus. On va parler maintenant du patrimoine net. Je vais juste le remettre à jour parce que, comme j'avais mal estimé le dernier. Je m'étais trompé dans mes notes. Donc, on a 1 million de dettes ici et on a du coup 594. Donc, on va faire 4 millions 649 000 euros moins 1 million 594 000 de dettes. Et ça nous donne un patrimoine au bout de 6 ans, d'accord? Net de dettes, net, 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 net. De 3 millions 55 000 euros. Donc en 6 ans, alors, vous avez vu le principe ou pas? Il a mis 18 ans exactement, pas 20 ans, mais 18 ans exactement à créer 2 millions d'euros. OK? 6 ans plus tard, donc de l'année 1 à l'année 18, il a créé 2 millions d'euros. De l'année 18 à l'année 24, OK? Il a fait plus 50%. Vous comprenez la puissance des exponentielles ou pas? En gros, pour vous réexpliquer dans d'autres termes, il a fait. Alors attendez, tac, croissant. Hop, 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 hop. Voilà. Son patrimoine a pris 50% en 6 ans. Si on fait la suite du calcul, le patrimoine va continuer d'exploser. Et en fait, c'est pour ça que je vous dis, et que j'accompagne mes clients dans ce sens, c'est que si vous créez les premiers capitaux le plus tôt possible, vous allez pouvoir vous éclater avec vos connaissances ensuite pour faire juste de l'optimisation, du réinvestissement, de la stabilisation des flux et de la capitalisation, les amis. Vraiment, je vous le dis. Vous pouvez très bien commencer avec des opérations à 50, 100 000 euros, multiplier ces opérations, atteindre à un moment donné le million d'euros de patrimoine brut, puis le million d'euros de patrimoine net. On réalloue ses actifs, on fait des choses intelligentes. Ce million, on le transforme en un deuxième, puis un troisième, et ainsi de suite, les amis. Et ainsi de suite. Et encore une fois, je vous avais parlé d'un de nos auditeurs qui fera probablement un jour l'interview sur le podcast. Il faudra qu'on organise ça. On a évoqué ça. Bah lui, il en est rendu déjà à plus de 8 millions d'euros de patrimoine IMO. Okay? Et pareil, il part de zéro. Okay? C'est juste, c'est pas branlé. Et il a utilisé les bons leviers et il a 10, 15, oui, il doit avoir 10 ans de plus que moi. Ok? Vous comprenez comment ça marche? Et lui, c'est pareil, il n'est pas arrivé encore. À 8, il sait très bien que s'il fait les choses correctement, à ses 60 ans, il sera peut-être à 40, okay? Ou à 50. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est pour ça qu'à chaque étape, je vous dis, ne négligez pas votre point de départ. Parce que, évidemment, on préférerait faire des opérations dès le début à 15 millions d'euros, 20 millions d'euros, etc. Évidemment. En tout cas, pour ceux qui sont motivés pour développer du patrimoine. Mais il faut bien comprendre un truc, c'est que pour apprendre à faire ce genre d'opération et réussir, Ça a fait une transition en plus sur ce que je voulais vous dire après. En fait, si vous voulez, pour faire un deal à 1 million d'euros qui fonctionne, il faut savoir faire un deal à 100 euros qui fonctionne. Okay? C'est aussi bête que ça. Il faut comprendre qu'il y a des flux entrants, il y a des flux sortants, et que s'il y a plus de flux entrants que de flux sortants, c'est une opération qui gagne. S'il y a plus de flux sortants que de flux entrants, c'est une opération qui est une catastrophe. Okay? Et du coup, on va pouvoir faire une petite transition sur la suite de ce podcast où j'allais aborder avec vous une actualité qui est passée ces derniers jours. Et beaucoup de personnes ont dit beaucoup de conneries dans les médias, je trouve, à ce sujet. Et je voulais juste réaborder vite fait le sujet sans, encore une fois, faire de politique parce que ce n'est pas mon sujet. Et dans l'idée, la France a dépassé les 3 000 milliards de dettes. OK? Pendant la gestion de la pandémie en 2020, on est passé de 2 000 milliards à 2 800 milliards et de 2020 à aujourd'hui, on est passé de 2 800 à 3 000. D'accord? Ça, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée de. Bah voilà, vous voyez, typiquement, Tom, en 6 ans, il a fait plus 50% sur son patrimoine. Et bah, nous, au niveau de l'État, ils ont fait plus 50% en 4 ans, plus 50% en 4 ans sur une dette d'État qui avait évidemment plus de 40 ans d'existence. D'accord? Donc en 40 ans, on a cumulé 2 000 milliards de dettes et en 4 ans, on a mis 1 000 milliards en plus. C'est juste pour vous donner un ordre d'idée. On a fait ce qui a été réalisé en 20 ans précédemment en 4 ans. Ok? C'est pas mal, hein? C'est une bonne gestion. Et du coup, juste pour vous expliquer. Pour savoir si on va faire faillite ou pas, je vous rassure, si l'État fait faillite, ça veut dire que vous faites faillite. Ok? Déjà, premièrement, peut-être que le système peut s'effondrer, peut-être. Je ne le souhaite pas parce que, en soi, tel que ça fonctionne, moi, j'arrive à tirer mon épingle du jeu et tous les investisseurs qui sont dans ce podcast, vous y arrivez aussi et les entrepreneurs, etc. Et c'est pour ça que j'essaye de ne pas vous faire trop de politique parce que je pense que c'est un énorme piège dans lequel vous complaisez, en fait. C'est trop facile de dire « Ah, bah du coup, ils ont fait n'importe quoi, donc je vais rien faire. » Mais non, mais ça, c'est un discours de merde. Et généralement, quand on regarde les profils de ceux qui sont devant le 20h et qui hurlent devant leur télé à regarder des trucs sur la politique toute la journée, « Oh, t'as vu ce qu'elle a fait, t'as vu ce qu'il a dit, truc, 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 truc. » Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rien fait. OK? Généralement, d'un point de vue business, d'un point de vue entrepreneuriat, d'un point de vue investissement, ils n'ont pas fait grand-chose, voire rien du tout. OK? Pourquoi? Parce que c'est une énorme perte d'énergie. Imaginez si à chaque fois, en fait, cumulez le temps que vous passez, si c'est le cas, à regarder de la politique, faites le calcul sur une semaine, puis un mois, puis un an, et regardez si vous aviez, enfin, si vous n'aviez pas alloué ce temps à ça, qu'est-ce que vous auriez pu en faire? C'est. Ne serait-ce qu'une heure et demie ou 2 heures par jour, hein, qui peuvent être fractionnées, hein, à coup de 20 minutes par-ci, une demi-heure par-là sur un podcast, un truc, puis ensuite 1 heure le soir ou 2 heures le soir, etc. C'est, ça va très vite. Hein. 2 heures par jour, déjà, sur une semaine, ça vous fait 14 heures. Sur un mois, ça vous fait 56 heures. 56 heures, c'est vrai que vous avez passé plus de 2 jours en un mois à regarder des conneries. D'accord? 2 jours pleins. Hein. Parce qu'en réalité, c'est 28 heures, enfin, c'est 2 fois 28. Donc, c'est plus de 2 jours. OK? Donc, comprenez bien un truc. Je ne vous fais pas ce point sur la dette pour vous parler de politique et vous faire dire ah ouais, mais en même temps, un tel, c'est un scandale et tout. On s'en fout. D'accord? Si ce n'est pas un tel, ce sera un autre un tel. OK? Qu'on comprend bien ça. Ce n'est pas le sujet. Et tu n'as pas le pouvoir de modifier ces choses-là. Donc, modifie ce que tu peux à ton échelle, à savoir ton patrimoine. Et la gestion de tes finances, ok? Et surtout, surtout, tes compétences. N'oubliez pas ça, les amis. Mais juste pour faire un récap sur l'histoire de la dette. On n'arrête pas de vous dire, on est à 110% du PIB, 110% du PIB, etc., etc. Mais je trouve que ce calcul est débile, mais totalement débile, et ça m'embête de le reconnaître, mais un des seuls politiques qui en avait parlé, non, quoi, non, je vais pas le citer, parce que franchement, c'est aberrant de me citer. Mais dans l'idée,
comprenez bien une chose, c'est quand vous allez à la banque pour faire un crédit IMO, okay? La banque, elle regarde la mensualité par rapport à votre revenu, elle ne regarde pas la dette par rapport à votre revenu. Ça n'a aucun sens, d'accord? Ça n'a aucun sens. On compare un flux à un putain de stock, okay? La dette, c'est un stock. Les mensualités sont des flux, les annuités sont des flux, okay? Donc en fait, pour bien comprendre et évaluer la situation, il faut regarder combien on produit et combien on dépense. OK? Et là, pour le coup, effectivement, il y a des sujets à plein de niveaux, mais c'est largement réglable. En fait, ce qu'il faudrait, c'est réformer clairement l'État et diviser très probablement par deux toutes les dépenses de l'État. OK? C'est pour ça que je vous dis, mais de toute façon, vous allez me dire, ouais, c'est impossible, truc, mais vous savez, moi, je vous le dis chaque semaine, vous vous battez contre les statistiques. Donc après, c'est juste que le temps que ça arrive, vous n'y croyez toujours pas, etc. Et puis le jour où ça arrive, vous êtes baisé. Et oui, c'est aussi con que ça. Hein. Mais vous savez, moi, ça fait déjà 5 ans, non, 6 ans. Non, ça fait 5 ans. 5 ans. 5 ans. 5 ou 6, non. 6, 2018, ouais, ça, 6 ans, pardon. Je dis une connerie. Ça fait déjà 6 ans que j'ai commencé à investir dans l'IMO. Si j'écoutais toutes les personnes, et pareil, j'avais l'échange avec une personne qui m'a envoyé sur Insta un discours d'un mec qu'en plus j'apprécie, mais qui est ultra pessimiste sur l'immobilier, l'investissement en France, etc., etc. En fait, il y a 6 ans, il tenait le même discours. Et en 6 ans, j'ai clairement, explosé par rapport à ma situation de départ, enfin, je veux dire, très factuellement et objectivement. Et certes, sur la durée, il peut se passer des dingueries dans le pays, économiquement, etc. Mais justement, pour anticiper et pour vous mettre le plus à l'abri possible, il faut agir tant qu'il est encore temps. Et je peux vous garantir qu'il est encore temps, puisque typiquement, sur cette année, j'ai continué les investissements. Là, je suis en train de faire des recherches et je vous ai montré sur Insta cette semaine un bien là que je suis en train de regarder. Je fais tout le suivi de des membres de la formation qui ont déjà commencé. Ceux qui sont passés par le CPF, il y a 14 jours de rétractation avant de rentrer en formation, donc c'est plus long. Ça, c'est vraiment, ouais, parenthèse. Si jamais vous posez la question, vous voulez aller le plus vite possible, etc. Évitez de passer par le CPF, c'est plus long, puisqu'il y a tout un tas de délais, etc. Si vous prenez la formation directement sur le site internet, vous la prenez à 13h19, à 13h20, vous pouvez commencer la formation. Okay? Donc, ça, c'est la différence. Maintenant, c'est quand même bien si vous. Enfin, je veux dire, si c'est ce qui vous fait passer à l'action, faites-le quand même. Mais voilà, dans l'idée, ayez bien une chose en tête, c'est que. Combien ça va vous rapporter derrière? Ne voyez pas la dépense, voyez ce que ça va vous rapporter. Et ça me fait vous faire une petite transition sur le sujet. C'est que généralement, quand on investit en bourse, on va regarder les boîtes qui sont les plus prometteuses, normalement. Sauf si on s'amuse à shorter des business et essayer de regarder les boîtes qui vont se péter la gueule, etc. Mais généralement, quand on a en tête un investissement en bourse, on va essayer de regarder les sociétés qui sont le mieux gérées. Les sociétés le mieux gérées et les sociétés qui explosent le plus, quel est le point commun? C'est que généralement, elles ont une ligne dans leurs dépenses annuelles qui est de plus en plus grosse chaque année au fil des augmentations de chiffre d'affaires et des augmentations de capitalisation. Vous ferez un focus, sans que ce soit du conseil d'investissement, vous ferez un focus juste sur les GAFAM, d'accord? Ou même les GAFA, juste les GAFA. Google, Amazon, Facebook, Apple. OK? C'est pas dans l'ordre, hein, mais vous avez compris. Vous regarderez dans leurs dépenses la R&D. C'est recherche et développement. D'accord? Qu'est-ce que c'est la R&D? C'est tout l'investissement dans le développement de compétences pour pouvoir créer des innovations dans leur domaine et pour pouvoir se démarquer de la concurrence. Là, jusqu'ici, tout le monde se dit, ouais, c'est normal, c'est logique, etc. Bah ouais. Mais c'est quoi tes dépenses en R&D à ton échelle? Okay? C'est quoi tes putains de dépenses en recherche et développement sur l'année, proportionnellement à tous les revenus qui rentrent dans ta poche? Pose-toi sincèrement la question. Moi, à chaque étape et dans tous les domaines, et dans mes auditeurs, j'ai ma coach de prise en parole publique, de prise de parole en public, pardon, qui nous écoute, Camille, que je remercie et que je salue au passage. J'ai aussi Raphaël, mon coach sportif. Eh oui. Et beaucoup d'autres qui m'ont aidé à développer des compétences. C'est des gens que j'ai payés, d'accord? C'est des gens que j'ai payés, mais du coup, j'ai appris des trucs qui me serviront toute ma vie, d'accord? Et qui vont me permettre d'exceller. Je vous donne un simple exemple. Savez, le sport. Je vous le dis à chaque fois, un truc. Il y a des milliers de coachs en ligne qui vendent des programmes, etc. Mais ce n'est pas parce qu'eux gagnent de l'argent que ça ne fonctionne pas. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Et les gens sont malheureusement un peu débiles avec ces sujets-là. C'est que sous prétexte que le coach sportif va gagner de l'argent, on ne va pas écouter ses conseils. Mais pour autant, moi, pour avoir payé plusieurs coachs, plusieurs formations, plusieurs trucs, notamment le domaine du sport, je peux vous dire que maintenant que j'ai compris comment ça fonctionne, bah, à vie, ça m'a sauvé. Et en fait, j'aurais pu payer peut-être 15, 20, 30, 100 fois plus cher. J'ai dépensé plusieurs centaines, voire milliers d'euros. Enfin, avec mon coach privé, j'ai dépensé plusieurs milliers d'euros. J'ai dépensé, ouais, facile, 6, 7 000 euros, hein, en quelques années. En quelques années. OK? Sauf que l'avantage, c'est que c'est de l'argent qui ne sera pas alloué dans tous les, comment dire, tous les médicaments, tous les stratagèmes pour éviter les problèmes de santé liés à une mauvaise santé physique. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est pour ça que si vous développez des compétences dans la fiscalité, certes, ça va vous coûter de l'argent de maîtriser ces compétences. Mais en fait, faites le calcul de si vous aviez toute votre vie à payer en moyenne 15 à 20% de plus d'impôts que la moyenne. Faites le putain de calcul, les amis. Si vous gagnez 50 000 euros par an, OK? 20%, ça représente 10 000 euros. D'accord? 10 000 euros sur, je le rappelle, pour avoir votre retraite, pour espérer avoir à peu près la moitié de votre salaire actuel, il faut attendre 47 ans. Donc, admettons, vous gagnez en moyenne 50 000 euros par an sur 47 ans. Et vous vous faites niquer en moyenne de 20% d'impôts par rapport à des gens qui maîtrisent la fiscalité. Bah, sur 47 ans, en fait, ça représente déjà 500 000 euros. Tu vois? Et 500 000 euros non investis. Parce que, attends, ça, c'est un raisonnement de 10 000. OK? Il faut bien comprendre un truc, hein, c'est que 10 000 la première année, si tu es un peu smart, tu es 10 000 la première année. La deuxième, c'est un peu plus de 11. D'accord? Et la troisième. Et à la deuxième, tu vas ajouter les 10 000 de la deuxième, et ainsi de suite. Donc en fait, ça va être des intérêts composés. Donc en fait, je vais juste te faire le calcul, histoire de que tu comprennes de quoi on parle. Donc attends, on va aller sur HSBC, simulateur, épargne. J'aime bien prendre le temps avec vous, les amis. Je sais que c'est long, je sais qu'il y a des chiffres, que trucs, mais j'essaye de vous éduquer pour que vous arriviez à vous coucher moins bête ce soir, les amis. Et je vous dis ça, je ne suis pas forcément le plus intelligent du monde, j'ai pas tout compris dans la vie, mais... Alors attendez. Calculer, capital... Déterminer... Non, ça c'est bon. OK. Donc, il demande de le mettre en mensuel. C'est un peu relou, mais c'est pas grave. Donc, on va faire 10 000 divisé par 12, ça fait 833. OK. Capital initial, on va mettre 1 euro. OK. Rendement annuel moyen, on va mettre 13%. Et on va faire ça. Ah oui, je crois qu'on ne peut pas faire plus de 30 ans sur leur calculette, mais ce n'est pas très grave. Ah bah tiens. Oh putain. Donc, sur 30 ans. Sur 30 ans, normalement, c'est censé être en votre faveur. On est d'accord. Sur 30 ans, hein, je répète, les amis, le contexte de départ. Donc, vous gagnez 50 000 euros en moyenne sur toute votre carrière. Vous n'avez jamais daigné vous renseigner de près ou de loin sur comment optimiser votre fiscalité. hein, et les investissements. Du coup, vous perdez en moyenne 10 000 euros par an en impôts et autres taxes, parce qu'il n'y a pas que les impôts qui s'optimisent, il y a d'autres taxes, d'accord ? Si chaque année, vous allez serrer, hein, mais de toute façon, vous pouvez faire les calculs dans votre coin et vous retomberez sur le même résultat. Si chaque année, vous mettez votre économie d'impôt en investissement, bien investi, avec un rendement de 13% en moyenne par an, et je le rappelle, c'est simplement le rendement du marché US sur les 60 dernières années, d'accord ? J'ai rien inventé. Si vous regardez le CAC 40, on est à près à 8-9%, donc on n'est pas loin, mais on est moins bien. Et si vous regardez un ETF monde, c'est pareil, on est à peu près à 8-9%. Ok ? Donc si chaque année, pendant les 30 ans qui suivent votre premier job, vous aviez économisé cet argent en payant pour obtenir des compétences en fiscalité, vous auriez au bout de 30 ans 3 101 634 euros. D'accord ? Je le rappelle juste, en mettant donc 833 euros par mois de côté, ce qui donne sur une année 10 000 euros d'économie, avec un capital initial de 1 euro, parce qu'on ne peut pas mettre 0, vous arrivez donc en total, en versement cumulé, vous aurez versé 300 000 euros sur 30 ans, donc c'est bien les 10 000 par an, et vous obtenez un capital final de 3 101 000 euros. Donc c'est-à-dire qu'en intérêt cumulé, vous aurez cumulé 2 800 000 euros. Ok ? Tu saisis un petit peu ou pas ? Est-ce qu'à ton avis, si au tout début de ta carrière, tu avais même mis 50 000 euros, ce qui est une grosse somme pour le coup, est-ce que ça n'en vaudrait pas la peine ? C'est la question. C'est que là, dites-vous, on l'a fait sur 30 ans. Mais vous savez, c'est l'histoire des exponentielles. C'est que si on faisait les 15 années qui suivent, ou les d'ailleurs 17 années qui suivent pour arriver à 47 ans, on va faire le calcul, les amis. On va faire le calcul. Parce que je sens que vous avez envie de le savoir, et moi aussi. Donc, ça fait 3 millions. Hop. Tac. Tac. Sur les 17 années qui suivent. Et encore une fois, vous n'allez pas me croire à tous les coups, mais je vous laisse faire, évidemment, vos calculs. Bah, en fait, ça nous a juste prouvé l'exponentiel. Hein, c'est que, du coup, de l'année 1 à l'année 30, on a atteint donc 3 101 000 euros de capital. Okay. Et de l'année 30 à l'année 47, donc les 17 années qui suivent, en restant sur le même rendement, même capital, 833 euros par mois, on arrive à 25 333 304 euros. Pour un total de plus de 22 millions d'euros d'intérêts cumulés, les amis. Ok ? Et ça, je vous rappelle juste une chose. Hein. Pour atteindre ça, on a pris des chiffres de 10 000 euros par an. 10 000 euros d'optimisation de vos impôts, ok, quand vous avez un salaire de cadre, etc. Et on a réemployé cette économie d'impôts intelligemment pour investir, et on arrive à la retraite avec cette somme-là. Hein. Allez-y, vous savez quoi ? Vous ne croyez pas ? Je vais vous donner l'adresse URL pour avoir la calculette du site HSBC. Je n'ai pas de part chez HSBC. Vous tapez www.épargne-salariale-retraite.hsbc.fr. Ok ? Vous cliquez, vous allez sur leur simulateur, vous faites le même exercice, vous allez voir que vous allez tomber sur les mêmes chiffres. Ok ? 25 millions à la retraite, ça aide ou ça... Non ? Ça vous parle ? Un petit peu ? Comprenez bien les choses. Là, on a juste pris un exemple de merde. On a juste pris quelqu'un qui investit 10 000 euros par an. C'est nul. D'accord ? Parce que ça, on parle d'investissement en equity. D'accord ? C'est du cash que vous sortez de votre poche. Si vous mêlez ça à du levier avec de la dette, bah en fait, vous pouvez faire quasiment x10 sur cette somme-là. Comprenez bien, c'est comme ça que ça marche, en fait. Ok ? Donc bref, les amis, on a fait pas mal de chiffres aujourd'hui. Je pense qu'on va peut-être s'arrêter bientôt. Ok ? Qu'est-ce que je pourrais vous raconter encore comme connerie ? Qu'est-ce qu'on a fait cette semaine ? Qu'est-ce qui nous est arrivé ? Déjà, je tiens à rappeler que vous avez gratuitement accès à la masterclass que j'ai créée, tournée, qui est accessible sur tous mes réseaux sociaux. Donc déjà, il n'y a aucune excuse de ne pas la suivre. Ce que je vous montre et démontre par A plus B, pourquoi vous n'aurez pas de retraite. Et je vous donne des méthodes à mettre en place, évidemment gratuitement, à la fin de cette masterclass, okay, pour optimiser vos finances personnelles, votre dossier de financement pour réaliser votre premier investissement ou votre futur investissement IMO. Okay. Donc ça déjà, c'est accessible sur tous mes réseaux. Deuxièmement, pour rappel, abonnez-vous à mes réseaux, hein, Louis Doucet sur Instagram, Limitless LPDRG sur Instagram, le plus rentable du game, ça veut dire LPDRG. Et avant qu'on se quitte, les amis, n'oubliez pas une chose, c'est que plus vous vous formez tôt, plus vous investissez tôt, plus vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Le but n'est pas d'être riche pour être riche, ça n'a aucun intérêt, d'accord ? Je peux vous dire que j'ai côtoyé dans ma vie plein de gens, notamment des gens qui ont beaucoup d'argent par rapport à la moyenne, et ce n'est pas forcément la clé du bonheur, croyez-moi. Je ne vais pas rentrer dans les phrases de merde genre « l'argent ne fait pas le bonheur » parce que, évidemment, que ça y contribue à 1 000 000%, d'accord ? Mais ce n'est pas la finalité. Moi, tout ce que j'essaie de vous faire passer comme message, c'est en gros comment développer des revenus supplémentaires par rapport à votre situation de départ, que vous ayez 2 500 € par mois ou plus de 30 000 € par mois, comme un de mes clients que j'ai eu cette semaine au téléphone, d'accord, qui est dentiste. Et oui, il fait 300 000 annuels, ok ? Mais même à 300 000 annuels, tu peux optimiser ta situation, tu peux développer du patrimoine supplémentaire, etc., etc. Et en fait, une fois que tu es à 300, pourquoi ne pas tout tenter pour arriver à 400, 500, 1 million et plus grâce à tes invests, sachant que on sait par A plus B et mathématiquement qu'on gagne plus d'argent en investissant une fraction de notre salaire tout au long de notre carrière, on gagne plus d'argent que en cumulant tous les salaires à 100% sur une carrière. N'oubliez pas. Je vous refais un petit calcul pour le plaisir, pour la fin. Pour la fin. Les amis, regardez. Admettons, vous gagnez... on va reprendre le même exercice. Vous gagnez 50 000 € en moyenne sur toute votre carrière. D'accord ? Donc, vous avez pendant 47 ans, 50 000 fois 47, vous avez 2 350 000 qui vous passent entre les mains. OK ? Rappelez-vous de l'exemple qu'on a fait juste avant. En mettant 20% d'économie d'impôts grâce à vos compétences dans des investissements smart, en fait, vous faites plus que x10. OK ? Donc, avec 20% de votre salaire, vous gagnez 10 fois plus que 100% économisé de votre salaire pendant 47 ans. Vous comprenez ou pas ? Et là, encore une fois, je n'ai même pas mis dans l'équation du levier avec de la dette. Et le levier avec de la dette, c'est ce qu'on fait sur l'IMO. Okay ? Là, je vous ai juste pris des exemples en investissant dans des paniers d'actions qu'on appelle des ETF. C'est de la merde. Enfin, c'est pas de la merde. C'est déjà très bien, évidemment, par rapport à la moyenne. Mais je veux dire, c'est des investissements de bébés investisseurs. Okay ? Ce que je vous ai expliqué en début de podcast avec l'OBO, et putain, mais en fait, si vous l'appliquez à votre situation, vous allez littéralement gagner énormément d'argent. Et en fait, je vous ai pris l'exemple d'un de mes clients, Tom, qui s'appelle pas Tom. Mais comprenez bien une chose, c'est que, OK, lui, il a peut-être un plus gros patrimoine que vous, etc., etc. Mais si vous avez ne serait-ce qu'une maison ou un appartement qui est déjà payé, d'accord ? Il est déjà payé. Il n'y a plus de crédit dessus. Et l'appart, il vaut 400 000 euros, j'en sais rien. Tu as un 35 mètres carrés à Paris, voilà, qui est déjà payé. OK. Il vaut 400 000 euros. Je le revends, je fais un OBO. Admettons que tu réinjectes, je ne sais pas, la moitié en apport et tu reprends le reste en crédit pour avoir des mensualités aux alentours des 1 000 euros. Tu sais que tu vas louer plus cher que 1 000 euros, donc il va se payer, il va se rembourser tout seul. Donc, tu vas recréer 200 000 euros sur 20 ans. Et tu auras récupéré dans ta poche 200 000 euros. Ces 200 000 euros, si tu les investis intelligemment, en fait, avec 200 000 euros, on peut lever peut-être jusqu'à 2 millions d'euros. En fait, c'est ça que vous ne comprenez pas. C'est qu'avec 200 000 euros mis en 10% d'apport dans un projet, si c'est un projet qui est bien monté, bah, tu peux lever jusqu'à 2 millions d'euros. Et même si tu pars sur des hypothèses bien plus défensives, ce que j'ai tendance à vous mettre sous les yeux, généralement, c'est que même si les 200 000, tu les mets en mode 20% d'apport, bah, tu peux déjà lever 1 million d'euros de dettes. D'accord ? Et pourtant, tu partais d'un patrimoine lambda. C'est déjà bien, 400 000 euros. Évidemment que c'est bien, c'est cool. Puisque le patrimoine moyen des Français, il est à 124 000. 124 000, tu te rends compte ? 124 000, ok ? C'est le prix d'une Porsche 911, ok ? C'est le patrimoine net des Français qui correspond à toute leur liquidité, la valeur de leur bien immo, la valeur de leur voiture, la valeur de la télé, enfin, du canapé, etc., etc. Vous comprenez les écarts de richesse comme ils sont hallucinants. Et attendez de voir le podcast qui sort mercredi avec Kevin. Vous allez péter un câble. Kevin, depuis la formation, et je vous avais promis, je vous le sortirai, sort de la facture. Et depuis la formation, 1,3 million d'euros, les amis. OK ? Alors attention, encore une fois, je vous l'ai dit la dernière fois, le but, c'est pas de prendre les gloires à sa place. C'est lui qui a fait le taf. Mais en fait, il a fait le taf parce qu'il avait aussi les bonnes compétences. Donc bref, les amis, j'espère que vous avez kiffé ce podcast. On le verra sur, de toute façon, le taux de rétention. J'espère que je vous ai pas perdu avec tous mes chiffres. J'espère que vous avez appris des choses avec l'OBO. J'espère réussir à faire passer quelques-uns à l'action pour en fait, changer votre avenir avec l'IMO et l'Invest. Et je vous dis ça, encore une fois, c'est pas prétentieux ni rien. C'est juste que je sais que à situation classique, même avec des bons revenus, en ayant 2-3 bons conseils, on peut surperformer. Et n'oubliez pas l'exemple du salaire. Avec 20% investi d'un salaire sur 47 ans, on gagne 10 fois plus que 100% de ce salaire mis de côté sur 47 ans. 10 fois plus, littéralement. Rappelez-vous, on était à 2,3 millions en cumul contre plus de 25 millions. D'accord ? 25 millions, les amis. OK ? Donc voilà, les amis. Passez une excellente semaine. N'oubliez pas de télécharger la masterclass. N'oubliez pas de rejoindre la formation, créer et gérer sa foncière de A à Z. On a 12 semaines de suivi avec moi. Je vous ai montré des screens cette semaine d'échanges avec des membres, notamment Candice, qui a déjà fait des offres. En un SMS, je lui ai fait économiser 10 000 euros. Bon, voilà. J'allais vous dire, c'est le travail de tous les jours pour moi, mais ça peut être pour vous. Okay, je serai derrière vous pour vos invests. Le but, c'est de vous aider à performer. Donc voilà, on ne fait pas de miracle. Si tu viens avec un SMIC, je ne vais pas t'apprendre à lever 4 millions d'euros dès la première année. Mais par contre, si tu viens avec un SMIC ou si tu viens avec 15 000 euros ou si tu viens avec 100 000 euros par mois, eh bien, je te montrerai les meilleurs leviers pour ta situation. C'est aussi simple que ça. Derrière, tu auras les bons tips pour, au fil des années qui passeront, adapter ta stratégie en fonction de là où tu en es, en fonction de ton épargne disponible, en fonction de ta capacité d'emprunt, en fonction de tes revenus, de ton activité en parallèle, et éventuellement de tes projets personnels, si tu veux payer des choses à tes enfants, etc. Il y a des choses qui s'anticipent. Bref, c'est pour ça que c'est important de se former. C'est pour ça que c'est important d'investir le plus tôt possible. Et n'oubliez pas une chose. Le but, c'est pas juste d'avoir des milliers ou centaines de milliers ou millions d'euros sur son compte. Ça n'a aucun intérêt. Okay, le but, c'est juste d'en profiter, de mettre à l'abri ses proches et de profiter de la vie. Et les instants simples ne nécessitent généralement pas tant d'argent que ça. Okay, vous pouvez très bien, comme l'exemple de Vincent Martis dans le podcast qui est sorti mercredi dernier, c'est quelqu'un qui pèse plusieurs millions d'euros. Déjà, il est très détendu parce que il kiffe ce qu'il fait. Il fait un métier passion autour de la présentation de voitures sur YouTube, etc. Et voilà, c'est quelqu'un qui a levé des fonds, il n'a pas levé des fonds. Il a revendu sa boîte au Bon Coin. Et c'est le premier à vous dire que, un plaisir simple qui s'est fait, c'est que du fait d'être libre, Une fois, il y a quelques semaines, il est allé un mardi après-midi, ou je sais plus que c'était un jeudi, bref, peu importe, au cinéma, tout seul. Le truc, s'est pris un canapé dans les cinés plus récents, hein. Et voilà, en fait, c'est genre, il s'est juste pris une après-midi tranquille, il a maté un film qu'il kiffait, et c'est ça le bonheur. Comme moi, je vous dis, les amis, je suis loin encore très, 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 très loin de mes objectifs. Et je garde mes objectifs secrets, mais sachez qu'à chaque étape, je me marre. Quand je donne des cours, je kiffe. Quand je suis sur mes projets avec AD Gestion, je kiffe. Quand je fais des projets IMO, je kiffe. Quand je vous fais ce podcast, je kiffe, etc., etc. Et j'arrive avec ça à maintenir une vie sociale. J'arrive à aller au sport tous les jours. Je mange que des bons produits. Enfin bref, j'essaye de tout bien optimiser pour qu'en fait, à chaque étape, même si, et ça arrive, et je vais vous dire, et je vais finir ce podcast sur une touche qui est beaucoup moins drôle. J'ai un de mes potes, on a fait des études ensemble. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail par respect pour lui et sa famille. Mais sans avoir touché de sa vie à quelques drogues que ce soit ou cigarettes, eh bien, avant ses 30 ans, il se tape un cancer, peut-être, qui sera plus là dans quelques mois ou années. OK? Avant 30 ans. Donc, putain, ne vous faites pas chier dans la vie où vous êtes aujourd'hui. OK? Si votre CDI ne vous plaît pas, cassez-vous, putain. Faites bien les choses. Ne le faites pas en vous mettant en risque. Mais ne regrettez pas. Ne regrettez pas, les amis. C'est le plus important. OK? Parce que il n'y a rien de pire que de terminer sa vie sur des regrets. Et la vie, vous ne savez pas quand est-ce qu'elle se terminera. Vous avez 25 ans, vous pensez que votre vie est tracée jusqu'à vos 70 ans. Ça se trouve, demain, vous serez mort. OK? Donc, ne vous emmerdez pas là où vous êtes. C'est la pire des choses. Ne perdez pas votre temps qui est précieux parce que la vie est aléatoire. OK? C'était improbable que ça tombe sur lui. Évidemment. Et j'espère que vous le lui. Voilà, là, là, là. J'en perds mes mots. Vous lui souhaiterez un bon rétablissement et je prie pour lui tous les jours. Mais voilà, les amis, c'est important. Le but, c'est pas de vous faire pleurer sur cette fin de podcast, mais comprenez bien les choses, c'est que le temps passe vite. N'ayez pas de regrets sur votre lit de mort. Terminé pour aujourd'hui. C'était le podcast 64 avec Louis Doucet. Passez une bonne semaine. Kiffez bien. Ciao.